propose de garder nos questions pour la suite, puisque je pense que les deux interventions vont quand même pas mal se croiser. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bally, qui est donc diplômé de Sciences Po, actuellement doctorant en sociologie, ingénieur de recherche à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Et donc sa thèse, qu'il va très prochainement soutenir, porte sur ces sujets-là. Donc l'intitulé exact, c'est « Les jardins collectifs au prisme de l'individu, quelle motivation et pratique des jardiniers sur Lyon ?» Et donc aujourd'hui, vous allez revenir avec nous un peu sur l'histoire de ces jardins, l'histoire française, mais aussi américaine, ce qui donnera un pendant à la première intervention, et puis ces ancrages de pratique dans l'urbain.
Très bien. Oui, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'offrir cet espace de parole aujourd'hui pour présenter effectivement mes travaux de recherche. Je vais essayer de faire assez rapide. Je ne sais pas de combien de temps du coup je dispose.
Je pense qu'on pourra croquer un tout petit peu sur la pause d'une demi-heure et puis s'offrir le temps d'une belle présentation.
Très bien. Donc moi, je m'attache en fait à tenter de... Je m'attache à montrer la manière dont les jardins collectifs, et notamment les jardins partagés, sont des lieux de pratique collective, évidemment, mais aussi des lieux de conflit et des lieux, évidemment, de pratique individuelle. Et donc aujourd'hui, je vais parler au travers de l'histoire, comme vous l'avez très bien présenté, des jardins collectifs. Alors, aux États-Unis, je ne reviendrai pas effectivement sur le cas français, je vais m'attacher à voir les potentielles ressemblances, dissemblances, entre finalement les pratiques passées dans les jardins collectifs et les pratiques actuelles qu'on observe, et notamment sur le terrain lyonnais sur lequel je travaille. Donc le but de la présentation, c'est effectivement explorer ces transformations du jardinage collectif au travers des jardins partagés et des jardins de rue, que je vais définir par la suite, sur le territoire lyonnais. Donc je fais un bref historique dans un premier temps, et puis on abordera les transformations dans un second temps, avec notamment les pratiques des jardiniers, qu'on va aller un peu plus dans le détail, et aussi les attentes politiques vis-à-vis de ces jardins-là. Donc, rapidement, pour parler des jardins collectifs, il me paraissait nécessaire de passer par un historique des formes de jardinage au sein des États-Unis, dont finalement l'histoire des jardins collectifs aux États-Unis, et notamment ce qu'ils ont appelé les Working Garden, qui est finalement un peu le pendant américain des jardins ouvriers. Il me paraissait nécessaire de revenir sur cet historique-là, tant il est finalement assez semblable à l'historique français. Donc là, il faut partir de 1893, d'une grande récession aux États-Unis, et à l'image finalement un peu de ce qui se passait en France à la même époque, la ville de Détroit va commencer à ouvrir des parcelles pour les habitants et pour les nouveaux arrivants, pour les populations pauvres et les nouveaux arrivants notamment en ville. Donc c'est ce qu'ils appelaient les vacant lot garden et les hungry potato patches. Alors potato puisque la plupart de ces terres finalement étaient dédiées à une activité de production de pommes de terre. Et donc le but c'était, comme on l'a très bien vu dans la présentation précédente, que ces populations-là puissent finalement subvenir à leurs besoins avec ces bouts de terre. Donc c'est un modèle qui sera forcément répliqué à d'autres villes américaines au vu de son succès, donc Boston, San Francisco, Philadelphie, mais qui sera finalement, une fois la crise résorbée, passée, ces jardins seront finalement transformés en school gardens, donc les jardins d'école, où là, l'objectif sera vraiment l'éducation des enfants, favoriser le lien avec la nature, contrer l'effet néfaste des villes. C'est vraiment, ça fait partie en fait de ces programmes urbains qui se développait finalement pour un peu nettoyer les villes, ce qui renvoie encore une fois à ce programme un peu hygiéniste, encore une fois qu'on a vu à la même époque en France. En 1917, contexte encore une fois un peu particulier, ces espaces jardinés vont devenir finalement un peu des espaces patriotiques. Le jardinage va devenir un acte patriotique, c'est ce que les Américains vont appeler les wartime gardens. Et donc là, les espaces jardiniers vont être utilisés finalement pour aider, on va dire, à l'effort de guerre. On passe dans cette période, alors avec évidemment les subventions de l'État et la volonté de jardiniers, on passe de 2 millions de jardins avant 1917 à 5,2 millions en 1918 sur le territoire. Mmh. Par la suite, ces jardins-là, en fait, encore une fois, la guerre, une fois la guerre passée, ces terrains vont être un peu délaissés, un peu abandonnés, et puis ils reviendront, en fait, encore une fois, sur le devant de la scène en 1930. Avec les jardins, le jardin, encore une fois, des jardins qui sont développés pour contrer finalement la crise économique. Et là, plusieurs villes vont mettre à disposition des terrains pour permettre finalement, encore une fois, aux urbains de jardiner. Alors, ces jardins, ils étaient à la fois aménagés sur des espaces publics verts, des parcs, mais aussi des jardins privés. Ils étaient principalement, cette fois, financés par le support d'organisations communautaires et le gouvernement. Et ensuite, donc, dernier type de mon historique avant d'aborder les community gardens, c'est les victory gardens, où encore une fois, finalement, pour soutenir l'effort de guerre, on transforme ces espaces de jardinage, ces parcs, ces biens privés, en ce qu'ils appellent les victory gardens, où là, il y a une campagne déjà qui est un peu plus massive finalement que celle de 1917, pour le jardinage, pour soutenir encore une fois l'effort de guerre. Donc là, il y a des slogans qui apparaissent comme « Sow the seeds of victory »,« Dig on of victory », comme on peut le voir sur les affiches que je vous ai mis ici, où encore une fois, jardiner devient véritablement l'acte patriotique par excellence et permet d'aider à l'effort de guerre par la production de nourriture. Alors, il faut savoir que là, à ce moment-là, on a 20 millions de familles qui produisent, selon les sources, et qui produisaient surtout un peu plus de 40% des légumes qui étaient produits à ce moment-là dans le pays. Donc ça, ces jardins-là avaient une certaine importance et un certain poids finalement. Donc, pour faire un rapide résumé là-dessus, on a des jardins collectifs qui sont fortement développés, mais essentiellement durant différentes crises économiques finalement. La crise de 1893, les années 30 et puis les deux guerres. Et je vais parler de la crise à venir. Mais ces formes de jardinage-là, en fait, elles sont rapidement abandonnées une fois les crises résorbées. Et l'activité économique semble à chaque fois, finalement, primer sur ces jardins. Ce qui souligne hein, le fait que ces jardins étaient essentiellement, d'ailleurs, nourriciers. Dernière crise dont je vais parler ici, c'est la crise des années 70, où New York est particulièrement touchée. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait, comme il a été très bien souligné dans l'exposé précédent, on sort d'une période de glorieuse où les jardins disparaissent puisqu'il y a une sorte de désintérêt pour le jardinage au profit finalement d'autres espaces de consommation. Et puis la crise des 70 entraîne une fermeture de nombreux commerces, d'usines, de logements. De nombreux biens finalement reviennent à la municipalité. Et on a donc développement. La municipalité en fait n'a absolument pas les moyens d'entretenir ces espaces-là. Et on a donc le développement de nombreuses friches urbaines. Ce qu'on appelle aussi des vacants. Et donc, on a des collectifs d'habitants, de résidents, qui vont vouloir finalement réinvestir ces friches-là. Alors, pour plusieurs raisons. Une raison, c'était déjà de vouloir reprendre la main finalement un peu sur leur quartier, puisque la plupart des terrains qui étaient devenus des terrains vagues étaient couverts finalement de palissades, étaient fermés. Donc l'idée, c'était de se réapproprier ces espaces-là. Mais c'était aussi finalement vouloir également réduire la criminalité qui était en grand développement sur ces espaces-là. Ils développent également, au travers de ces mouvements de jardinage, un mouvement de contestation qui fait suite aux contestations, puisqu'on est aux États-Unis, aux contestations de la guerre du Vietnam notamment, donc avec tout un mouvement de contre-culture qui se développe et qui va se matérialiser via notamment à la fois la naissance des community gardens, mais aussi des groupes de type guerilla gardening, où l'idée de ces habitants-là, c'était finalement de lancer ce qu'ils appellent des bombes à graines, des seed bombs, au-dessus des palissades, pour se réapproprier ces terrains, pour faire pousser des choses sur ces terrains-là, en fait. Et c'est un peu de cette manière, finalement, que vont naître les premiers community gardens par ces citoyens qui désiraient réinvestir ces espaces-là. On aura un premier community garden, donc on pourrait traduire par jardin communautaire, et non jardin partagé. Le premier jardin qui va se développer dans le Lower East Side en 1973 et qui sera assez rapidement en fait soutenu par un dispositif public, Green Thumb, pouce vert, en 1976. Donc l'idée de ce dispositif, c'était finalement de pouvoir proposer aux habitants des terrains et surtout leur proposer une location à très bas prix finalement. Et la location, en fait, c'était un dollar symbolique. ces community gardens là, cette fois ils vont, pardon, ces jardins là, ils vont cette fois pas être éphémères et leur développement en fait va se faire de manière assez continue. Alors on a un départ qui s'est fait à New York City et qui va se développer en fait dans beaucoup d'autres, beaucoup d'autres villes américaines. Ça va essaimer assez rapidement et ce développement là va cette fois pas s'arrêter et pas se cantonner à ce moment de crise et va aller jusqu'aux années finalement 90. Là on aura un nouveau coup d'arrêt de ces jardins. On a une centaines, un peu plus d'une centaine de jardins qui vont être revendus en fait, puisqu'au milieu des années 90, on a un changement au niveau de la mairie de New York, et on aura le fameux Giuliani qui va arriver, à la mairie et qui va donc vouloir réutiliser dans une vision un peu plus néolibérale de l'espace d'aménagement du territoire, va vouloir finalement revendre pas mal de terrains pour en faire des espaces, voilà, parking, centre commercial, etc., qui était bien dans la logique du coup pour le coup de l'époque. Donc on a finalement une suppression assez massive de jardins à cette époque-là, mais aussi une grande résistance de jardins, et finalement qui s'est stabilisée à entre 500 et 600 jardins, et qui du coup se sont stabilisés aussi depuis cette époque et qui existent encore aujourd'hui à New York. Cela étant, ce rapide historique nous montre la fragilité, la grande fragilité de ces jardins, qui prennent place finalement sur des espaces publics, et une fragilité, et le fait surtout que ces jardins-là reposent finalement un peu sur une bonne volonté aussi des pouvoirs publics de les laisser ou de prêter le terrain. Et enfin, pour terminer un peu sur cette historique, on peut définir du coup les community gardens, ces jardins communautaires, comme des espaces de jardins collectifs et associatifs, proposant à tout un chacun cette fois de cultiver sa propre parcelle. On avait des parcelles qui étaient individuelles sur ces... En fait, on avait un grand espace collectif avec des parcelles individuelles, mais qui n'étaient pas closes. Et le but était à la fois d'en tirer une petite production, mais pas que, puisque le but, c'était aussi finalement de produire des communs. C'était aussi d'acquérir finalement une certaine identité, une certaine sensibilité à l'environnement, à la nature, à une alimentation un peu plus saine. Et finalement, c'était également vu comme des espaces de citoyenneté, voire de contestation. Et l'idée finalement de ces jardins et les différentes recherches qui sont intéressées à ces jardins-là voient qu'ils s'y développent. Je parlais de biens communs, puisque ces jardins ne vont pas seulement profiter aux jardiniers, mais ils vont également être ouverts pour que tous les habitants puissent finalement venir alors, visiter, voire participer aux différentes activités qui étaient proposées. Ils avaient également une dimension sociale qui était très forte, une dimension alimentaire, évidemment, j'en ai parlé, et une production collective et individuelle qui relevait quand même une certaine importance. Je ne vais pas revenir du coup sur les jardins ouvriers familiaux, je pense, puisqu'on a eu un très bon historique juste avant, donc c'est pas la peine, et c'est parfait d'ailleurs, ça m'économise du temps. Alors les jardins collectifs, moi j'ai défini dans ma recherche deux types de jardins collectifs, et on pourra en discuter d'ailleurs lors des questions, donc les jardins partagés et les jardins de rue. Alors les jardins partagés, on en a un peu parlé ce matin, ils arrivent en France avec le Forum National de Lille, et la création du réseau Jardins de tous ces États en 1997. Le premier jardin lyonnais arrivera en 1998, lyonnais, villeurbanais plutôt, et leur développement va se situer plus aux alentours des débuts des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et on a un développement qui va vraiment s'accélérer à partir de 2002, où là les premiers jardins vont arriver vraiment au centre de Lyon, et on a un peu plus d'une cinquantaine de jardins aujourd'hui avec une fréquence d'environ trois nouveaux jardins partagés par an qui se créent, sans compter ceux évidemment qui se ferment, et on pourra en reparler également lors des échanges. L'idée des jardins partagés, c'est évidemment là de proposer des parcelles collectives. Alors je n'ai pas d'exemple, j'ai vu des exemples, mais pas à Lyon, de jardins partagés qui proposaient des parcelles individuelles. Moi, j'en ai pas eu sous la main. Donc, c'est des parcelles vraiment collectives où les gens tentent de jardiner finalement en collectif. Et ils sont soutenus par ailleurs sur le territoire par une association qui est financée par les pouvoirs publics, qui est Passe Jardin, et qui permet finalement la mise en réseau des jardins, qui assure le suivi des jardins, leur création, la formation des jardiniers, etc., etc. Deuxième type de jardin collectif, les jardins de rue, que là, moi, je décompose en deux. Alors, d'un côté, on a les jardinières donc, comme j'en ai mis sur la photo. Alors, c'est ça, ou ça peut être également ça. Et c'est, l'idée de ces jardinières, finalement, c'est d'être relativement participative. Alors, c'est installé à la fois par deux associations, donc, qui sont les Incroyables Comestibles, puis une autre association, Habitants Main Verte, qui est sur le mur également. Mais c'est également mis par des habitants. Là, la photo de gauche, c'est une habitante qui a mis une jardinière dans la rue parce qu'elle voulait simplement que son entrée, elle en a mis deux plutôt, une de chaque côté de sa porte, pour rendre un peu plus, finalement, son entrée un peu plus attractive, m'a-t-elle dit. Alors, l'idée, finalement, de ces jardinières, voilà, c'est vraiment d'habiter l'espace public. Et ça m'amène à développer mon deuxième type de jardin de rue, qui sont les micro-implantations florales, qui sont là un peu plus institutionnelles, c'est un peu moins informel comme pratique, mais j'y reviendrai. Et là, ces micro-implantations florales, finalement, c'est un peu ces espaces entre le trottoir et l'habitation, où c'est des bouts de trottoir qui sont creusés. Alors, ça peut également être des plantes qui émergent au travers du béton, au travers d'une fissure, puisque c'était un peu l'idée, l'inspiration de départ. Et finalement, alors, comment ça se passe ? C'est vrai que j'en ai pas parlé pour les jardins partagés, mais on pourra en parler après. Pour les jardins de rue, en fait, c'est des collectifs d'habitants qui vont vouloir rendre leur rue un peu plus attractive et qui vont faire une demande aux espaces verts. Et ces espaces verts vont, s'ils acceptent la demande, faire appel à une entreprise pour finalement creuser des petits trous dans les trottoirs pour que les jardiniers puissent ensuite organiser un événement et planter finalement tous ensemble dans la rue. Alors ça peut être des espaces qui sont juste devant chez eux, en face de chez eux. L'idée c'est que ce soit pas très loin de leur domicile évidemment, puisque ça nécessite un petit entretien finalement assez quotidien. Et c'est principalement des fleurs d'ornement. Alors, quelques exemples de micro-implantations florales. Hein. Alors c'est petit, il faut les remarquer. Il faut le souligner. Alors, je parlais de l'historique un peu des jardins partagés qui sont arrivés en 97 en France. Ces micro-implantations florales, l'idée a vraiment émergé en 2003, sur le territoire lyonnais en tout cas, avec quelques rues qui ont été jardinées dans le 5e arrondissement notamment. Ça n'a pas trop pris, puis deux événements qui ont été organisés par des habitants ont vraiment là fait monter un peu la chose. Donc deux événements qui étaient deux journées en fait de plantation sur deux quartiers différents, donc le quartier Guillotière à Lyon et le quartier Montchat, donc deux quartiers qui sont très 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 différents à la fois en termes de population, de revenus, etc. Et là en fait depuis il y a eu un développement constant de ces micro-implantations sur le territoire. Je ne vais pas m'attarder trop sur ma méthodologie, c'est juste pour vous expliquer que cette recherche se base essentiellement sur à la fois des observations en fait, des entretiens, des notes de terrain, observations auprès des jardins de rue à la fois et également des jardins partagés, une immersion d'ailleurs dans quatre jardins en particulier, et sur pas mal d'entretiens à la fois avec les jardiniers, mais également avec les responsables des espaces verts et les élus. Alors en deuxième partie, il m'intéressait vraiment de voir si vraiment on avait une continuité, une transformation finalement des pratiques jardinières par rapport à ce qu'on a pu voir dans l'historique d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on a pas mal vu finalement les jardins ouvriers. Quid finalement, est-ce qu'il y a une continuité des pratiques? Est-ce qu'ils reprennent un peu tout ça? Est-ce qu'il y a aussi une continuité des pratiques vis-à-vis des community gardens américains dont ces jardins s'inspirent? Et pour ça, il me paraissait nécessaire alors, de faire un petit détour par les motivations peut-être des jardiniers, puis ensuite par les pratiques. Alors, on trouve trois motivations principales des jardiniers pour s'engager au sein des jardins de rue et au sein des jardins partagés. C'est tout d'abord gratter la terre, c'est l'envie d'aller finalement renouer un peu le contact avec la nature, de tout simplement toucher la terre. C'est aussi une volonté, deuxièmement, de développer un espace de nature en ville. Les jardiniers parlent beaucoup de la prédominance du béton, de la volonté de développer finalement quelque chose de vert, pas loin de chez eux, d'enjoliver un peu le quartier. Et enfin, l'une des raisons, qui est d'ailleurs l'une des raisons les plus citées, c'est la socialité, c'est rencontrer les habitants du quartier, voir finalement d'autres jardiniers et en faire finalement un espèce d'espace de rencontre, tout ça, en fait, ces trois éléments, ça révèle finalement une sorte de volonté de ces habitants-là de participer un peu à l'aménagement du quartier, à animer le quartier, à la fois d'un point de vue finalement assez personnel, mais aussi collectif. Donc les pratiques des jardiniers, alors j'ai quand même dû poser la question à quelques jardiniers, mais finalement, c'est d'un point de vue très profane, c'est quoi le jardinage ? Puisque j'ai essayé de voir finalement, est-ce qu'il y avait des vraiment... Comment ces jardiniers arrivent à faire collectif au sein de ces jardins et à faire finalement d'une pratique de jardinage qui est à la base très individuelle, comment ils arrivent à faire collectif ? Alors qu'est-ce que le jardinage ? Donc c'est planter, arroser, tailler, nettoyer, mais pas que. Donc tout ça c'est fait un peu de manière assez individuelle, mais c'est en complément, il y a tout un ensemble de pratiques collectives. Alors il y a des constructions diverses, donc il y a l'aménagement de bacs, par exemple, la construction de bacs qui peuvent se faire. Des journées plantation, des chantiers collectifs, des repas partagés, des fêtes également, des événements divers. Donc tout un ensemble de pratiques collectives qui viennent se développer en complément de ces pratiques individuelles et qui sont finalement qui nous disent que sur ces jardins, finalement, il ne se passe pas que du jardinage, il se passe aussi d'autres choses. Il se passe évidemment, il y a du lien social, mais il se passe voilà, des activités qui finalement n'ont parfois pas ou peu à voir avec le jardinage et qui sont essentiellement, qui marquent finalement essentiellement la volonté pour ces jardiniers de retrouver et d'animer finalement quelque chose sur leur quartier. J'aurais pu également parler comme pratique effectivement collective du plan de culture qui se décide de manière collective, qu'est-ce qu'on va planter au fil de l'année. Des cahiers qui tiennent pour voir qui a planté quoi, pour ne pas planter sur quelque chose que quelqu'un aurait déjà planté avant, ce qui arrive malgré tout assez souvent dans ces jardins-là. Voilà, donc on a vraiment une association finalement de pratiques individuelles et collectives sur ces jardins-là, qui est assez intéressante. Ce qui vient en complément de ces pratiques, c'est le temps. Il me paraissait important de parler aussi du temps sur les jardins, puisque là, on trouve sur ces jardins collectifs vraiment deux types de jardiniers. On trouve les jardiniers purs et durs, un peu le noyau dur de chaque jardin, qui vont être investis plusieurs fois par semaine et qui vont être très présents sur le jardin. Et on a les autres qui vont être un peu moins présents, qui vont être un peu plus satellitaires, qui vont tourner autour du jardin. Et finalement, ce qui nous dit qu'il y a un engagement... alors déjà, il y a une responsabilité qui est assez moindre vis-à-vis du jardin. C'est ce que je vous ai mis dans l'extrait qui est en dessous, c'est qu'on se repose un peu sur les autres aussi pour jardiner. On se repose un peu sur les autres pour jardiner. Et finalement, il y a un engagement qu'on appelle un engagement un peu post-it en sociologie, c'est-à-dire que c'est un engagement qui ne tient pas longtemps, qu'on peut facilement enlever et qui finalement n'engage pas à grand-chose. Et donc, il y a un turnover qui est assez fort sur ces jardins-là, voire très fort. Et donc, mis à part le noyau dur sur les jardins, qui peut aller de 5 à... qui peut aller de 3 plutôt à 8, 9 personnes grand maximum, on a autour des jardiniers qui s'engagent finalement pas trop et qui viennent de temps en temps, soit pour jardiner, soit pour participer à d'autres activités. D'ailleurs, on a certains jardins qui mettent en place finalement des règles, pour réguler un peu cette vie collective et qu'obligent une participation, qu'obligent à faire un nombre d'heures de jardinage par mois ou voilà, par semestre, voilà, ça dépend des jardins, mais il se met en place ce type de règle finalement pour forcer un peu l'engagement des jardiniers et pas qu'on ait qu'un engagement de quelques mois et puis qu'ensuite on s'en va. Alors, ces jardins-là, ces jardins collectifs, c'est aussi le lieu de pratiques, ce que j'appelais les pratiques informelles, c'est-à-dire les pratiques qui sont non déclarées, et notamment non déclarées auprès des pouvoirs publics, auprès des autorités, auprès des mairies, les municipalités qui sont les principaux interlocuteurs de ces jardiniers-là. Donc c'est des petites prises de liberté, alors que c'est généralement pour, si on prend l'exemple des jardins de rue, c'est pour agrémenter l'espace. Ici on a en photo l'exemple, c'est un lieu qui se situe juste en face de chez la femme qui jardine, et qui s'est dit, voilà, j'avais pas envie d'attendre... de faire la demande et puis qu'on me dise oui, qu'on vienne creuser les trous, que ce soit aux normes, etc. Donc j'ai moi-même planté des graines, j'ai pris la liberté avec une voisine de faire ça, et voilà, tout ça pour finalement cacher un peu le bâtiment qui est en face de chez elle et qu'elle trouvait pas vraiment à son goût et pas vraiment dans l'esprit de la rue qui devenait une rue jardinée. ces pratiques informelles, elles se développent également sur les jardins partagés, où là, c'est plus de l'appropriation de parcelles, puisque les jardins partagés, généralement, il y a une convention d'occupation entre la municipalité et l'association, convention d'occupation qui est basée sur un terrain fixe. Et parfois, il peut y avoir, au sein de ces terrains, à côté du terrain, il peut y avoir une petite friche qui n'est pas prévue dans la convention parce que potentiellement dangereuse. Et c'est ce type de terrain que les jardiniers sont assez friands de s'approprier, puisque c'est là, ça fait un espace supplémentaire, c'est là où ils vont mettre quelques légumes, où ils vont faire quelques expérimentations, et encore une fois, sans vraiment le déclarer. Donc finalement, est-ce qu'on est dans des pratiques, est-ce qu'il y a une continuité ou une discontinuité avec l'historique qu'on a vu dans l'exposé d'avant, l'historique que j'ai fait des jardins communautaires américains? Alors, ce qui est très intéressant chez les jardiniers des jardins collectifs, c'est qu'ils veulent marquer une certaine distance, voire une très grande distance, entre eux et les jardins familiaux, ouvriers, qui sont juste un peu des jardins du passé. Pour eux, ces jardins-là, c'est des jardins où il y a des pratiques individuelles, très individualistes, où les pratiques ne sont pas forcément écologiques, voire pas du tout, et ils veulent vraiment se démarquer vis-à-vis de ces jardins. Qu'est-ce qu'on voit de nouveau finalement sur ces jardins? Alors c'est les pratiques finalement qu'on appelle assez bêtement aujourd'hui les pratiques écologiques, permaculture, le fait de ne pas utiliser évidemment d'intrants, etc. Les pratiques évidemment collectives, avec les temps collectifs nombreux, quoique ce point sera à discuter au vu des pratiques finalement assez collectives qu'on a vues lors de l'exposé précédent sur les jardins ouvriers. Ce sera intéressant d'en parler. Et encore une fois, ce qui peut y avoir de nouveau, c'est le côté détente, le côté très détente, le côté aussi expérimentation qu'il peut y avoir sur ces jardins-là. Et puis finalement, cette volonté tout simplement de gratter la terre, mais gratter la terre dans une sorte de loisir sans forcément être rattaché à un lieu, sans forcément avoir la responsabilité de ce lieu-là. On est également dans le prolongement finalement des pratiques existantes, puisqu'on est bien sur le jardinier sur un espace public. On est également sur des pratiques qui restent en partie individuelles, et on est toujours un peu dans le jardiner pour le plaisir et pas forcément pour la production. Dernier volet de ma présentation, l'attente politique qui Pour moi, c'est un peu une discontinuité avec les jardins du passé, puisque les jardins collectifs du passé, puisque là, on a vraiment une très forte attente du côté des politiques et des institutions. On attend beaucoup de ces jardins collectifs, et on a également beaucoup de représentations de ces acteurs-là sur les jardins collectifs. Attention d'ailleurs ici, je vais me contenter de décrire ces représentations des acteurs publics sur les jardins. Je ne vais pas les remettre en cause. C'est un des objets de ma thèse, par ailleurs. Ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement le premier jardin lyonnais à Villeurbanne, il n'a pas forcément retenu l'attention des pouvoirs publics, et le développement va vraiment s'intensifier, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de 2001-2002, et c'est là où on va avoir un intérêt grandissant finalement pour jardinage collectif par les pouvoirs publics. On va tenter un peu de gommer finalement l'aspect contestataire qu'il pouvait y avoir notamment dans les community gardens. Et finalement, le développement des jardins, ça s'inscrit bien dans la grande tendance des urbanistes à promouvoir le développement durable. Et tout ça pour renforcer finalement aussi un peu la légitimité des autorités publiques locales à aménager le territoire. Donc, quelles sont ces représentations dont je parle, hein, selon la direction des espaces verts? Les jardins permettent par exemple une réappropriation par les habitants de la ville. Ils sont signes de convivialité, ils sont signes d'accueil. Également, pour la ville de Lyon, c'est un moyen de socialisation, c'est un moyen de promouvoir l'agriculture urbaine également. Quand on creuse un peu, d'ailleurs, on nous avoue que ça permet aussi de faire des économies considérables, puisque le fait que les habitants vont s'occuper des jardins ou de différents points verts à la place, finalement, pour certaines jardinières notamment, c'est le cas, à la place des espaces verts, ça va faire des économies notamment de temps, d'argent et de carburant, évidemment, aussi. Et donc, on a finalement un discours qui se cristallise autour des jardins collectifs, autour du concernement du citoyen, du contact nécessaire à la nature, de la convivialité, etc. Finalement, c'est un peu toutes ces représentations qu'on a vues et qu'on a retrouvées lorsqu'on parlait un peu des jardins ouvriers tout à l'heure. Donc ces jardins, ils sont mis en avant par les municipalités, par les pouvoirs publics, pour ces quelques raisons-là, créer du lien social, enchanter la ville, remettre de la nature en ville, refavoriser une certaine biodiversité, mieux s'alimenter également, contribuer au bien-être bien évidemment, varier le paysage urbain, répondre à une demande de nature en ville par les habitants, etc. On a également un soutien de ces jardins par la ville. Alors j'en ai parlé de la convention d'occupation entre la ville et les jardins partagés. On a également un soutien des jardins de rue, puisque j'en ai parlé, c'est les municipalités qui vont aller creuser les trous pour permettre aux jardiniers finalement de planter. On a également des apports de plantes qui se font pour eux, des journées de plantation qui sont soutenues par la direction des espaces verts, avec une animatrice qui se déplace lors de ces journées. Des subventions pour l'achat d'outils, de plantes, le prêt de terrain évidemment et les travaux de prise en charge pour les jardins partagés, les tests de pollution qui se font sur Lyon depuis 2012 sur chaque jardin et qui nous témoignent d'ailleurs d'une qualité de terre qui est assez déplorable et assez dangereuse surtout. Et également, voilà, plus globalement, le suivi des jardins, notamment par l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, Passe Jardin. On a également un autre mouvement qui est un peu plus étonnant, c'est que là, c'est les municipalités, les bailleurs sociaux également, qui vont vouloir développer leurs propres jardins et qui finalement, dans les nouveaux quartiers, vont mobiliser, vont réserver en fait un espace vert. Pour en faire un jardin partagé et qui vont mobiliser finalement les habitants autour de ce jardin-là. Et cette fois, par contre, plus avec généralement plus avec un animateur. Donc là, on a plusieurs exemples sur Lyon. On a j'en cite deux ici, le centre social Roger Vaillant, où on a un jardin qui est quasiment un jardin d'insertion, mais qui ne se veut pas jardin d'insertion. Et qui a été créé du coup par la ville, et le jardin partagé Graines de Lait. Ce qu'on voit quand même dans ces jardins-là, c'est que, et c'est ce que nous dit également une responsable des jardins partagés à la ville de Lyon, c'est que finalement on a une appropriation qui est beaucoup moindre quand les habitants n'ont pas fait les démarches de départ, n'ont pas fait les démarches d'appropriation du terrain, de demande, de convention, quand finalement ils n'ont pas forcément attendu le terrain. Il y a une appropriation qui est moindre, et dans les deux exemples que je donne, les jardins ne sont pas forcément au mieux au niveau de la fréquentation. Finalement, à part l'animateur, très peu d'habitants arrivent à s'approprier un peu le terrain et finalement à jardiner de manière autonome ou sans animateur en tout cas. Donc en conclusion, on a une certaine continuité historique dans la pratique du jardinage collectif avec quelques changements quand même au niveau notamment des motivations, des pratiques, d'une volonté de faire collectif et d'une attente politique qui est quand même beaucoup plus forte et beaucoup plus ténue. On peut quand même souligner que ces jardins, ils sont pas sans limite. On note un manque de mixité sur ces lieux. Les jardiniers eux-mêmes s'en rendent compte. Certains jardiniers parlent d'entre-soi, de classe supérieure, de classe sup. On n'est pas vraiment dans l'intégration de populations en difficulté, comme ce fut le cas dans d'autres jardins collectifs autrefois. Par exemple, les community gardens. Quand on a un jardin partagé, finalement, qui est au pied de HLM, comme j'en ai vu, c'est assez rare, finalement, que les habitants qui sont en contact direct du jardin viennent sur le jardin. Et généralement, ces jardins-là sont plus occupés par des jardiniers qui viennent d'un peu plus loin. Il faut préciser aussi que ça reste finalement des espaces assez clos, des espaces fermés. Chaque jardin partagé a une clôture. Ils sont fermés au public si aucun jardinier n'est présent. Alors oui, ils sont ouverts au public quand un jardinier est présent, mais ils ne sont pas ouverts quand personne n'est présent. Ça peut faire parler ces jardins comme une certaine privatisation de l'espace, ce qui ressort d'ailleurs dans d'autres études, notamment les études sur les jardins genevois. Et enfin, certains jardiniers s'inquiètent aussi d'une certaine récupération politique et témoigne du fait que ça doit quand même rester une mobilisation citoyenne si on veut qu'elle soit pérenne. Enfin, on peut se demander vraiment si est-ce que ces jardins finalement vont durer ? Est-ce que il n'y a pas un moment où finalement ces jardins collectifs, ça va se passer de mode ? Est-ce que la conception du beau dans la ville, de l'urbanité, qui passe aujourd'hui par l'aménagement d'espaces de nature, est-ce que finalement, à un moment donné, cet aspect-là, il ne va pas être remis en cause et il va conduire à remplacer ces espaces-là par autre chose ? Et ce sera la fin de mon exposé. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. On va prendre quelques questions, si vous en avez dans la salle, sur ces petites parcelles de terre.
Oui, alors donc, je suis un peu le coordinateur des jardins partagés de Paris 19e. Vous avez des choses très intéressantes à la fin sur ce que les gens de pouvoir attendent des jardins partagés. Je pense que vous n'avez pas, en tous les cas, mon exemple de ce que j'ai pu suivre sur Paris ne recoupe pas tout à fait ce que vous avez dit. Alors moi, j'ai suivi un peu l'affaire puisque j'ai fait pour France 3 un film sur les jardins ouvriers et partagés en 2002. Et puis ensuite, je suis passé à la pratique, et donc j'étais en 2002 déjà dans un jardin partagé. Ce que je crois que ce qu'il faut noter, c'est que, comme pour les jardins new-yorkais, il y a une dimension de résistance. Il y a une dimension de résistance à ce que devient la ville. Donc New York, on a rencontré dans le 19e des jeunes sociologues qui revenaient de New York, justement. Ce qui s'est passé, c'est que... disparition complète des services publics dans certains quartiers, les populations aisées migrant vers la périphérie, les quartiers sont à l'abandon. Et les jardins, les community gardens, c'est un moyen de se réapproprier l'espace et la vie dans les quartiers. Sur Paris, si on prend les années 2000, il y a un peu les deux aspects qu'on a rencontré pour les jardins ouvriers, c'est-à-dire qu'il y a une attente venue d'en haut, et donc on peut donner l'exemple du square Tanger-Maroc, où il y avait le bac à sable était à l'abandon, et là la demande vient d'en haut, et l'expérience n'a pas été très, très, très pertinente, au moins au début. Enfin, ce jardin existe encore, mais après une mutation. Et par contre, les expériences fortes sont des expériences de résistance à l'urbanisation. Par exemple, la serre aux légumes, avenue de Flandre, c'est les habitants qui luttent contre l'implantation d'un Xème nouvel immeuble. Et puis, le plus bel exemple, c'est le jardin solidaire d'Olivier Pinali, qui est donc la rencontre d'un artiste plasticien et des loulous du quartier. Une expérience sauvage et admirable, 24 heures sur 24. Et puis des couches un peu plus aisées qui les rejoignent petit à petit. Et là, un vrai brassage social. Et évidemment, on était sur un terrain en attente de construction et nos édiles en ont profité pour mettre fin à l'expérience. Et maintenant, il y a sur un toit un joli jardin qui est d'ailleurs vandalisé par les nouveaux loulous du quartier à qui on n'a pas demandé leur avis. Alors... Donc, je recommande quand même la lecture de Chronique d'un jardin solidaire d'Olivier Pinali, parce que tout est dit sur ce qu'est un jardin partagé aujourd'hui, comment ça fonctionne, comment ça se crée, etc. Et en fait, donc, il y a un puissant mouvement de résistance parce que la ville se ferme de plus en plus, parce que après la guerre de 40, il y a eu des tas de friches dues à la guerre. Après, il y a eu la désindustrialisation, donc il y a eu des friches disponibles. Tout ça, c'était des espaces de liberté. Et puis, ça se ferme. Et puis, les habitants ne leur demandent pas leur avis quand on construit des immeubles à côté, etc. Et donc, il y a un mouvement de résistance et de vouloir un petit peu organiser son environnement. Je pourrais citer des tas d'autres jardins, le jardin Fessard, par exemple. Et donc, à ce moment-là, la ville de Paris fait comme dans la pièce de Cocteau, puisque ce mystère nous dépasse, feignons d'en être l'organisateur. Mais ça donne des aspects positifs, bien sûr, aussi. Donc on y a 12 aspects, et deux aspects, ce qui vient par en haut et ce qui vient par en bas. Et je pense qu'il faut, comme pour les jardins ouvriers, comprendre tout ce qui vient par en bas. Et alors, un dernier aspect, ce n'est pas exactement le jardinage, mais c'est un aspect de la question à l'heure actuelle sur Paris, c'est l'histoire du compostage. Puisqu'on a répété aux gens qu'il fallait composter, donc ils veulent trier leurs déchets. Bon, alors il y a un programme pour les petits immeubles. Ceux qui n'ont pas la possibilité de faire dans leur immeuble, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont absolument envie de vouloir composter leurs déchets. Et là, la ville, c'est là qu'on voit les contradictions, dit non, le maire du 19e dit pas de compost de quartier, ça va être des poubelles à ciel ouvert qui vont attirer les rats. Donc on voit bien les contradictions et on voit bien le double langage. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a vraiment un courant même presque naïf, moi dans mon jardin. Alors, je dis ça aussi parce que les jardins partagés sont sollicités pour être des lieux de collecte du compost, et là, la ville l'interdit. Et c'est assez touchant de voir, comme c'est presque visible, de voir des gens arriver avec tout petit sac Biocoop, trois épluchures dedans. Ils font dans mon jardin, il faut se déplacer de 200 mètres pour atteindre le point de compost, et ils viennent quand même avec leurs petits sachets. Donc il y a une forte demande, et puis il n'y a pas d'accueil des pouvoirs publics. Donc voilà, tout ça c'est intéressant, et c'est un lieu de contradiction en fait.
Merci beaucoup. On va peut-être laisser Frédéric Bailly tenter de répondre à quelques-unes de vos interrogations.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a certains points que je n'ai effectivement pas eu le temps de développer, mais l'idée de résistance au sein de ces jardins-là. Alors, moi, j'aurais presque tendance à dire qu'il y a sur certains jardins, il y a effectivement une résistance un peu passive. Du fait que, quand je parlais effectivement de volonté de développer la nature, c'est la volonté effectivement de contrer le béton. Contrer le béton, c'est effectivement s'opposer à une forme d'aménagement quasi néolibérale, hein, qui était très en vogue dans les années 70, voire un peu avant. Et l'idée, c'est vraiment de s'opposer à ça aussi avec ces jardins. Je présente aussi, et je travaille sur les jardins de rue, justement, puisque là, c'est vraiment... C'est l'exemple parfait, en fait, de cette volonté de se réapproprier et de mettre un peu de vert au sein de cet espace urbain qui est un peu trop gris pour ces acteurs-là. Et l'idée, effectivement, c'est à la fois de contester la manière dont est aménagé l'espace, mais c'est aussi, en fait, y participer, finalement. Faut tempérer cet argument-là, quand même, parce que l'idée de participation, il y a finalement assez peu d'acteurs qui sont au fait des relations avec la municipalité. Ça concerne vraiment ça, uniquement quelques jardiniers qui vont vraiment participer à la vie quasi-politique de la ville et qui vont participer à l'aménagement. Les autres vont participer, en fait, par leur action de jardinage à l'aménagement du territoire. Et je suis tout à fait d'accord sur ce mouvement de résistance. Voilà, on parlait aussi de mouvement de réappropriation. En fait, il faut un peu relier ça aussi. Je n'ai pas eu le temps de pointer ce fait-là, qui est pour moi très important. En fait, il s'est développé dans nos villes. On a repoussé à la fois dans les villes, en Occident en tout cas, les espaces de production, on les a repoussés hors des villes, mais on est en train aussi de repousser un peu tous les espaces de socialisation gratuits. En fait, on a quasiment en ville plus que des espaces de consommation. Et on le voit, hein, avec la diminution du nombre de bancs dans les villes, quelque chose de tout bête, mais qui se développe effectivement. Et l'idée de ces jardins, c'est de proposer des espaces gratuits de socialisation et où on a une activité qui serait une activité de non-consommation. Donc là, effectivement, c'est aussi l'idée de résister un peu à cette logique de consommation et puis de résister à la manière dont on aménage le territoire. Je réponds juste rapidement sur les autres points. Vous avez parlé d'artistes jardiniers. Alors ça se développe. C'est effectivement les démarches artistiques se développent beaucoup dans les jardins partagés et les jardins de rue. C'est parfois aussi des démarches avant tout artistiques. Donc j'abonde sur ce point-là. Et sur le compostage, oui, j'ai peu le temps d'en parler. Effectivement, il y a des composteurs sur beaucoup de jardins, pas tous, puisque certains, effectivement, élus locaux refusent. Parfois, c'est la contestation, des habitants qui ne veulent pas. Des problèmes de rats, etc., des odeurs, des peurs. Il y a aussi tout un ensemble de représentations, hein, sur les composteurs et sur le compostage, donc, qui fait que sur certains jardins, ça ne peut pas, malheureusement, se développer. Je pense que j'ai à peu près souligné tous les points. Si.
Une question pour Madame Cabedos. Vous l'avez très bien introduit, mais je voudrais vraiment vous reposer la question. Qu'est-ce que vous pensez qu'ont été les effets, finalement, de l'historiographie des années 70, très dialectique, et qui a été portée sur les jardins ouvriers? Quels ont été les effets sur les jardins? Moi, je suis urbaniste, et en fait, quand j'avais des cours, quand dans mon jeune âge, on m'a toujours dit que les jardins ouvriers, c'était une manière de contrôler le peuple, etc. Et en fait, en faisant une thèse sur les jardins ouvriers, et en vous lisant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une construction d'une autre forme d'idéologie. Donc, qu'est-ce que vous qui avez vu une vision sur le temps long, quels ont été les effets de cette historiographie très marquée sur les jardins ouvriers, enfin familiaux?
Je ne sais pas si j'aurais beaucoup de choses à dire sur les effets, mais effectivement, quand j'ai travaillé dessus, je me suis un peu opposée à ça, quoi. Et certains historiens ont reconnu certains historiens ont reconnu un peu après qu'ils s'étaient un peu trompés, qu'ils avaient fait déjà l'amalgame entre les jardins ouvriers et les jardins industriels. Alors peut-être que le terme ouvrier n'est pas clair, effectivement, mais les jardins ouvriers, les jardins venaient quand ils le voulaient, on n'était pas du tout dans le cadre des jardins industriels. Est-ce que justement ces historiens n'ont pas fait l'amalgame entre les deux? Voilà, alors l'image des jardins ouvriers, c'est vrai que elle est restée un peu paternaliste, elle est restée, il y a aussi certains urbanistes qui ont dénigré cet individualisme petit bourgeois qui fait qu'on veut absolument son solopin de terre bien fermé, bien clos, en opposition à ces jardins partagés. Après, l'individualisme petit bourgeois, il s'est beaucoup plus exprimé dans le développement de l'habitat pavillonnaire qui imite complètement la grande couronne que dans les jardins. Peut-être que les gens de la fédération pourront, sur l'image de la Ligue du coin de terre, d'ailleurs, vous avez changé de nom, c'était peut-être aussi pour renouveler cette image des jardins. Après, ils se sont appelés jardins familiaux, donc on arrête de parler de jardin ouvrier qui n'était pas le bon terme, mais dès les années 30, certains reconnaissent que le terme n'est pas le bon. Enfin, pour changer l'image, effectivement, et cette image... Je pense qu'il y a eu, oui, le contre-coup de certains discours d'historiens, mais aussi des urbanistes, aussi des élus locaux qui, dans les années 60-70, ont dénigré, pour de multiples raisons, ces jardins. On a parlé de la lèpre des jardins familiaux, parce qu'il y a les questions d'esthétisme qui revenaient. Voilà, peut-être que le jardinier n'est pas dans la même optique, vouloir produire, vouloir son petit bout de jardin, vouloir et que ce n'était plus communément accepté. On est devenu plus large, quand même, depuis. Je ne saurais peut-être pas en dire plus. Et j'ai pas assez travaillé sur justement la fédération dans les années 80-90. Il faudrait travailler sur le bulletin. Votre bulletin, moi je me suis plus arrêtée dans les années 60-70. Bon, j'ai quelques exemples dans le département du Val d'Oise, mais on en revient de ces discours d'historiens un peu marxisants et qui, je vous dis, ont fait l'amalgame entre jardins patronaux et jardins associatifs.
On va prendre la dernière question, puis après je vous laisserai échanger pendant une courte pause, mais allez-y, je vous en prie.
Des jardiniers, est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'il y a une fédération? Comment ça s'organise là-bas? Est-ce que c'est un peu différent de la région parisienne, par exemple, que je connais? Parce qu'on parlait de résistance, mais est-ce que c'est lié à l'âge, par exemple?
Oui, alors effectivement, le portrait est un peu différent. Vous faites bien de poser la question parce que je me suis volontairement un peu passé vite sur ces éléments-là, parce que je me suis surtout intéressé aux pratiques. Mais effectivement, en termes de population, première chose, les jardins communautaires à New York, qui sont, enfin, en tout cas, sur la période que j'ai étudiée, qui était la période donc, des années 70 jusqu'aux années 95, on va dire 2002, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais sur cette période-là, c'était des jardins effectivement qui étaient très contestataires et qui donc, il y avait une population assez jeune sur ces terrains-là. Il y avait aussi le fait qu'il y avait une mixité en fait qui était beaucoup plus grande. Il y avait vraiment, en fait, l'idée de ces jardins, ce qu'on voit aussi dans les études de sociologues américains, pardon, c'est que l'idée de s'intégrer dans ces jardins, c'était d'annuler, d'effacer sa position sociale. En fait, on ne parle pas de position sociale quand on est au sein du jardin. Et donc, il y a une égalité de fait entre tous les jardiniers quand on était sur ces jardins-là. Alors, on pourrait dire pareil des jardins collectifs aujourd'hui, quoique il y a une certaine inégalité vu qu'il y a des amateurs jardiniers, il y en a qui sont un peu plus experts. Mais il y avait ce fait d'intégrer en fait, des populations un peu plus vulnérables au sein des jardins et qui, pour le coup, étaient vraiment accueillies et qui avaient une parcelle. Et l'idée en fait, d'avoir des parcelles finalement, qui n'étaient pas closes, individuelles mais pas closes, c'était aussi de pouvoir finalement transmettre les pratiques, aider les populations, voilà, leur dire voilà, c'est comme ça qu'on fait, etc. Par ailleurs, ce type d'organisation, hein, une parcelle collective avec des parcelles individuelles sur cette parcelle-là, ça se retrouve dans d'autres pays aujourd'hui. Et on a des, par exemple à Budapest, à Hongrie, les jardins partagés, qui portent la même appellation pour le coup, sont exactement sur ce modèle-là des jardins communautaires de l'époque des États-Unis. Donc voilà, âge, mixité, voilà un peu pour ce que je sais en tout cas du profil, ce que je peux apporter en tout cas sur, à votre question.